Bonjour à tous, nous sommes sur Bac FM, fréquence 106.1. Je suis Louis-Gabriel Baudrat, un élève du lycée Raoul Follereau, et nous sommes en compagnie de Anna Lombert, une philosophe maître de conférences en philosophie française contemporaine à l'Université Paris 8, et qui fait des recherches actuellement sur le rapport entre l'homme et les technologies. Merci à vous, Anna Lombert, d'avoir accepté cette invitation.
Merci, bonjour.
Bonjour. J'espère que vous allez bien.
Très bien, merci.
Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous décrire plus en détail sur quoi portent vos recherches ?
Alors oui, en essayant d'être assez concise. Donc, moi en fait, je travaille à l'origine sur la question de la technique dans la philosophie contemporaine. Donc à travers, disons, l'étude de différents auteurs, dont les principaux sont Gilbert Simondon, Jacques Derrida et Bernard Stiegler, mais je regarde aussi beaucoup d'autres travaux. Et disons, une des implications de ces recherches-là, c'est de m'interroger plus spécifiquement sur les transformations technologiques contemporaines, notamment les transformations numériques, et d'essayer de comprendre un petit peu leurs enjeux d'un point de vue, on va dire, anthropologique, très général, hein, donc les enjeux psychiques, sociaux, politiques que ces transformations technologiques peuvent avoir dans les sociétés actuelles.
D'accord, je vois. Votre dernier essai se nomme « Schizophrénie numérique ». Pourquoi avoir choisi ce nom et sur quoi traite à peu près cet essai ?
Alors, donc ce titre, en fait, je l'ai choisi pour signifier une sorte de schizophrénie épocale, c'est-à-dire en fait le fait que notre époque serait, d'un certain point de vue, tiraillée entre deux positions par rapport à la technologie, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, hein. C'était pas vraiment en référence à la question de la schizophrénie du point de vue de la santé mentale, hein. C'était une image pour dire qu'en fait, nous, collectivement, si vous voulez, nous ne savons plus quoi penser du numérique d'une certaine manière, et en particulier, nous sommes tiraillés entre différentes positions contraires à l'égard du numérique. Et donc, par exemple, hein, nous sommes tiraillés entre, d'un côté, des promesses un petit peu fantasmatiques, hein, des promesses de progrès, l'idée que nous arriverions bientôt à une intelligence artificielle générale qui serait capable de faire toutes sortes de choses, de remplacer des humains, etc., etc. Et puis, de l'autre, eh bien, l'idée que, à l'inverse, en fait, le développement et le déploiement de ces technologies numériques s'avèrent de plus en plus nocifs pour ces mêmes êtres humains. Et pour être un tout petit peu plus précise, en fait, ce qui m'intéressait spécifiquement, c'est que plus ces technologies, on va dire, se développent, plus nous sommes enclins à leur attribuer, en fait, des propriétés ou des capacités, des facultés qui étaient auparavant réservées aux êtres humains. Donc on va parler d'intelligence artificielle, mais aussi d'apprentissage automatique, ou bien de machines morales. Enfin, on va avoir toutes sortes d'agents conversationnels, on va avoir toutes sortes d'expressions comme ça qui anthropomorphisent les machines. Et puis de l'autre côté, on va avoir beaucoup d'études scientifiques qui vont être publiées, hein, au fur et à mesure du déploiement de ces technologies, qui vont, elles, à l'inverse, montrer que ces mêmes technologies auxquelles on attribuait des propriétés humaines, eh bien en fait, elles sont très dangereuses pour nos capacités de mémoire, nos capacités d'attention, nos capacités de langage aussi, et finalement toutes nos capacités cognitives, psychiques, intellectuelles, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment un écart entre ces deux positions à l'égard du numérique, une position qui va anthropomorphiser les machines et puis qui va, on va dire, louer les progrès de l'intelligence artificielle, et puis à l'inverse, une autre position qui va montrer qu'au contraire, en fait, le déploiement des réseaux sociaux, le déploiement d'un certain nombre d'interfaces, d'un certain nombre de fonctionnalités techniques, peut nuire à nos capacités psychiques, à nous. Vous voyez ? Donc moi, ouais. C'était cette espèce d'écart entre ces deux positions que j'ai nommé une schizophrénie numérique, c'est-à-dire une attitude complètement ambivalente et contradictoire par rapport à ces technologies, en fait. C'est d'abord ça que je voulais dire, et puis après, pour peut-être, sans être trop longue, mais juste pour rajouter une petite information là-dessus, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'idée que ces technologies, si vous voulez, notamment les réseaux sociaux, les plateformes de visioconférence, enfin ces technologies numériques de télécommunication, on va dire, elles produisent un effet de dislocation. Ça veut dire qu'elles vont nous emmener dans des endroits et dans des temps différents, si vous voulez, hein, comme là nous sommes en train de nous parler à distance, mais pourtant Moi, je suis avec vous, je suis dans votre espace et dans votre temps d'une certaine manière. Et donc, ce qui se passe avec le numérique, c'est une amplification de ces effets de dislocation où nous sommes en quelque sorte dispersés dans des espaces et dans des temps différents. Et cet effet de dislocation, un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui est un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la technologie, il en parlait déjà en 1956, alors non pas à l'époque du numérique, mais à l'époque des médias audiovisuels, et il qualifiait cette sensation de schizophrénie artificiellement produite. Il disait finalement l'individu est disloqué, dispersé dans différents mondes, si vous voulez, en raison des médias qui l'emmènent dans différents espaces, dans différents temps. Et moi, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, philosophiquement parlant, si vous voulez. C'est l'idée que ces technologies transforment nos rapports à l'espace et au temps. Voilà.
D'accord. Dans votre réponse, vous avez beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est autour de ça qu'on va orienter cette interview. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de l'intelligence artificielle ?
Alors oui, l'intelligence artificielle, en fait, c'est pas ma définition, hein, mais je crois que la définition commune de l'intelligence artificielle, c'est finalement les machines, on va dire, informatiques, électroniques, algorithmiques, qui ont pour vocation d'imiter ou de simuler des fonctions, des facultés, des capacités humaines. Donc, par exemple, le langage, par exemple, le jeu, par exemple, bon, toutes sortes de facultés humaines, l'apprentissage aussi, etc., etc. Maintenant, moi, j'ai proposé dans un article que j'ai écrit au sujet de l'intelligence artificielle de ne plus utiliser ce terme précisément parce qu'il me semble extrêmement problématique, en fait. Hein, c'est encore une fois, c'est une anthropomorphisation, si vous voulez, et de parler plutôt d'automates computationnels ou d'automates numériques, c'est-à-dire pour comprendre, en fait, qu'il s'agit d'algorithmes qui font des calculs, si vous voulez. Donc, les algorithmes, c'est des fonctions mathématiques, des opérations mathématiques, des suites d'opérations mathématiques qui font des calculs sur des données et qui arrivent à certains résultats à partir de ces calculs sur ces données. Mais ils ne font pas du tout la même chose que les humains, hein, enfin que ceux qu'on appelle des humains, puisque nous, bah, quand nous parlons, quand nous réfléchissons, quand nous raisonnons, bien sûr, il nous arrive de faire des calculs, hein, mais bien souvent, en fait, nous interprétons, hein, à partir du calcul, mais nous, si vous voulez, nous ne sommes pas des machines à calculer, quoi. Alors que cette idée d'intelligence artificielle peut, à l'inverse, nous faire croire que les machines sont intelligentes et que nous faisons la même chose que les machines, alors que c'est pas du tout le cas. Même si elles arrivent à simuler ou à imiter des résultats parfois identiques aux résultats que des humains pourraient produire, elles ne font pas du tout la même chose. Le processus n'est pas du tout le même, si vous voulez, hein. Ce sont vraiment des automates, même que vous avez extériorisé dans des machines-outils les gestes des ouvriers, par exemple, hein, grâce à des formalisations et puis ensuite à l'implémentation de ces formalismes dans des automates mécaniques. Et bien, de même, dans le cas de l'intelligence artificielle, vous allez formaliser, par exemple, un raisonnement sous une forme, on va dire, mathématique, puis vous allez l'implémenter dans un dispositif électronique qui va ensuite effectuer les calculs. Mais c'est pas du tout ce que vous faisiez quand vous raisonniez, vous voyez. Donc, c'est important d'avoir bien cette idée en tête quand on parle d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je pense que le terme est mal choisi, si vous voulez.
D'accord, je vois. Vous avez écrit un texte « Comment penser ChatGPT ?». Donc, ChatGPT, je rappelle, c'est un agent conversationnel avec lequel on peut discuter de tout et de rien sur Internet, lui poser des questions et autres. Dans ce texte, vous avez exprimé l'idée que nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle, mais que c'est elle qui nous utilise. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion exactement ?
Alors, tout d'abord, de manière assez, on va dire, ordinaire, c'est le cas dans de nombreux dispositifs numériques, lorsque vous faites une requête auprès de ChatGPT, donc disons lorsque vous utilisez cette interface, en fait, votre requête permet aux algorithmes d'apprentissage automatique de se perfectionner en fonction des différentes requêtes, en fonction de votre satisfaction ou de votre insatisfaction quant à la réponse qui a été donnée. Eh bien, l'algorithme enregistre tout ça d'une certaine manière et va se perfectionner grâce à votre utilisation. Bon, c'est le cas aussi sur un moteur de recherche, hein. Lorsque vous faites une recherche sur n'importe quel moteur de recherche, bah, la recherche que vous avez faite, si vous voulez, elle est enregistrée, elle sert à alimenter la machine, puisque, eh bien, si tout le monde fait lancer tel type de recherche et en fonction de la satisfaction ou de l'insatisfaction des utilisateurs, eh bien la machine précisera sa réponse en fonction, si vous voulez, des interactions, quoi. Donc à chaque fois, quand vous utilisez ce type de technologie, en fait, vous n'êtes pas dans le rapport, si vous voulez, d'un maître ou d'un sujet à un outil que vous pourriez utiliser de la manière que vous voulez. Non, en fait, c'est aussi la machine, d'une certaine manière, qui s'appuie sur vos requêtes et sur vos demandes pour, si vous voulez, générer des résultats pertinents. Donc, elle vous utilise en ce sens-là, dans un premier temps. Après, la deuxième chose à bien comprendre, c'est que ChatGPT ne peut fonctionner que grâce à des quantités massives de données. Hein, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment fonctionne ce modèle de langage, mais en fait, il a récupéré énormément de données sur Internet. Donc, il y a évidemment l'encyclopédie collaborative Wikipédia qui est dans sa base de données. Il y a aussi toutes sortes de données issues de différents réseaux sociaux. Et ces données, bah, qui les a produites ? Que ce soit Wikipédia ou que ce soit les données des réseaux sociaux, en fait, ce sont nous qui avons produit ces données. Et c'est seulement parce qu'il a toutes ces données-là qu'il peut faire des calculs probabilistes pour générer des réponses probables. Parce que si vous voulez, ce système, en fait, il a des quantités massives de données et il fait des calculs sur la probabilité des mots. Hein, ça, faut peut-être le répéter pour les personnes qui nous écoutent. Si jamais elles ne sont pas au courant, en fait, quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, il n'y a pas du tout un agent qui vous répond. C'est en fait une suite d'algorithmes qui, à partir des mots que vous avez entrés dans l'interface, va calculer quels sont les mots les plus probables à la suite des mots que vous avez entrés dans l'interface, si vous voulez. C'est pas facile à expliquer, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, c'est comme un logiciel d'autocomplétion, si vous voulez. Hein. Quand vous écrivez un SMS et que on vous suggère la fin de votre SMS, eh bien c'est parce que la plupart des gens qui commencent un SMS de telle manière vont le finir d'une manière probable, et c'est cette manière probable d'achever votre SMS qui vous est suggérée. Donc si vous voulez, c'est la même chose dans ChatGPT, hein. Ce sont des suggestions de mots probables, de suites de mots probables. Mais pour que ces probabilités soient fiables d'une certaine manière, même si en réalité il ne s'agit pas de fiabilité, mais pour que ces probabilités puissent simuler le langage courant, eh bien il faut que le logiciel se base sur des quantités massives de données en langage courant. Et ces quantités massives de données, eh bien, ce sont nous qui les avons produites. Donc, c'est en ce sens que la machine et l'entreprise, hein, OpenAI, qui a développé cet outil, nous utilise aussi. S'appuie sur les ressources linguistiques que nous avons communément déposées sur le web. Ouais, vous voyez ?
Je vois parfaitement. On va marquer une petite pause. Donc, avec le morceau I Am AI, composé par Aiva, qui est une intelligence artificielle, justement. Donc, on reste dans le thème. Le morceau a été retrouvé sur YouTube par la chaîne Aiva du même nom. Et donc, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Bac FM, fréquence 106.1. Je suis Louis-Gabriel Baudrat et on est avec Anna Lombert, une philosophe sur le rapport entre l'homme et la technologie, et nous discutons de l'intelligence artificielle. Vous venez d'écouter un morceau qui se nomme I Am AI, composé par Aiva. Et toujours sur le thème donc, de l'art et de la musique, Madame Anna Lombert, selon vous, quand l'intelligence artificielle génère par exemple un tableau ou toute autre œuvre d'art, après donc avoir été entraînée pour, est-ce qu'on pourrait parler de créativité ?
Ben non, moi je pense pas. Hein. Si vous voulez, c'est toujours la même question. En fait, je ne pense pas que ces capacités ou ces facultés, on va dire psychosociales, puissent être attribuées à des dispositifs techniques, machiniques, mécaniques, électroniques, informatiques. Alors, tout d'abord, je crois que la créativité, l'invention, etc., ce sont avant tout des capacités du vivant, si vous voulez, et en particulier des vivants que nous sommes et qui nous extériorisons techniquement, donc en produisant toutes sortes d'œuvres qui nécessitent l'apprentissage de toutes sortes de techniques diverses et variées, hein, et qui nous permettent de créer, justement. Hein. Par exemple, enfin voilà, hein, que ce soit la peinture, la musique, etc., vous devez intégrer toutes sortes d'automatismes et de techniques avant de créer une œuvre, et lorsque vous créez une œuvre, bah, que se passe-t-il en réalité ? Vous allez désautomatiser tous les automatismes que vous avez acquis et vous allez produire une bifurcation, d'une certaine manière, une nouveauté dans l'histoire, on va dire, de l'art que vous pratiquez. Donc, par exemple, je ne sais pas, un grand musicien va apprendre toutes sortes de techniques musicales, et puis à un moment, la manière dont il va interpréter telle ou telle œuvre va l'amener à inventer autre chose et à désautomatiser les automatismes qu'il avait acquis auparavant, hein, ou à créer un nouveau style, si vous voulez. Hein. Et c'est aussi ce qui se passe en peinture, c'est ce qui se passe aussi dans les sciences, d'une certaine manière. Enfin, c'est ce qui se passe dans toutes les œuvres de l'esprit. Mais dans le cas de ces machines, si vous voulez, il n'y a personne qui apprend, qui pratique, qui intègre des techniques. Je veux dire, l'intelligence artificielle ne peint pas, si vous voulez, elle ne joue pas de musique. Ce sont encore une fois des algorithmes qui s'appuient sur les œuvres qui ont déjà été produites, qui utilisent ces œuvres comme des données, et à partir de ces données, elles font des calculs et elles génèrent, si vous voulez, quelque chose de différent, mais qui n'est pas nouveau, si vous voulez, hein, qui est simplement une combinatoire à partir des éléments déjà existants. Mais c'est pas ça, la créativité, l'invention ou l'œuvre. Une œuvre, c'est quelque chose qui inscrit une bifurcation dans une histoire, si vous voulez, qui produit de la nouveauté, qui va faire que vous n'allez plus jamais voir l'art de la même manière. Hein. Une fois que vous avez vu un tableau de Picasso, par exemple, bah, vous allez revoir toute l'histoire de l'art différemment, etc., etc. Là, c'est pas du tout ce qui se passe, en fait. Là, on a juste une sorte de répétition des œuvres passées, mais combinées de manière un petit peu différente, si vous voulez. Pour moi, il n'y a absolument pas de créativité là-dedans. Et en plus, si vous voulez, dire qu'une machine est créative, ce serait comme dire qu'une chaise est assise, par exemple. Vous voyez, ça n'a pas de sens, en fait. Une chaise, par exemple, elle est ni assise ni debout. Elle est ce qui vous permet de vous asseoir, par exemple. Eh bien, une suite d'algorithmes, il n'est ni créatif ni pas créatif. Il est ce qui peut vous permettre à vous de devenir créatif, si vous savez comment faire des choses intéressantes avec ces algorithmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a vraiment des confusions qu'il faut éviter, à mon avis, voilà, sur ces questions.
D'accord. Donc, en ce moment, l'intelligence artificielle est vraiment de plus en plus présente. On en a pour faire de plus en plus, effectuer de plus en plus de tâches variées et différentes. Pour vous, quelles sont les évolutions possibles pour l'intelligence artificielle ?
Bah écoutez, là, je ne sais pas si je pourrais vous répondre très précisément parce que, je ne suis pas dans un laboratoire de recherche industrielle, donc je sais très peu de vision technologique sur l'avenir, mais ce que je vois, c'est que, si vous voulez, ces modèles de langage et d'intelligence artificielle générative, elles vont être intégrées dans de plus en plus d'outils ou de dispositifs informatiques, hein, les moteurs de recherche par exemple, les suites bureautiques et sans doute aussi les réseaux sociaux, et que risquent de se produire des évolutions assez rapides que je ne peux pas prévoir, hein, mais qui, à mon avis, en fait, vont conduire à automatiser, comme vous le disiez à l'instant, hein, en fait, de plus en plus de tâches, d'activités, ce qui qui peut devenir potentiellement un petit peu dangereux. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'un certain nombre de spécialistes du champ se sont exprimés publiquement hein, sur ces questions, hein, en soulignant les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Bon, parce que, si vous voulez, le problème, c'est que quand on automatise des activités, eh bien, en fait, on ne les pratique plus, hein, on les délègue à des mécanismes, et du coup, on ne les maîtrise plus non plus, et on a de fortes chances de ne pas vraiment pouvoir contrôler les effets que tout cela va produire. Hein. Donc, ça dépend évidemment dans quel champ. Je pense que dans le cas de la médecine, dans le cas de le champ militaire aussi, tout dépend de quel champ on parle. Mais ces intelligences artificielles génératives, elles peuvent se développer très vite dans de multiples sphères et en conduisant toujours à une automatisation de plus en plus généralisée et donc, si vous voulez, à un risque de perte des savoirs humains. Hein, parce que quand vous déléguez vos savoirs à des automatismes, vous ne les pratiquez plus et vous risquez en fait de les perdre, tout simplement.
Donc selon vous, est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle en l'état actuel des choses ?
Je dirais pas qu'il faut en avoir peur, mais je pense qu'il faut quand même s'inquiéter un petit peu des conséquences possibles d'une automatisation généralisée. Vous voyez, moi, je suis pas du tout dans ces mythes transhumanistes d'une super intelligence qui va contrôler l'humanité, etc. Je pense que tout ça, ce sont des histoires qu'on nous raconte. En revanche, je crois que l'automatisation généralisée et la perte de savoir généralisée, hein, ce que le philosophe Bernard Stiegler appelait la prolétarisation généralisée, ça, c'est un véritable risque. C'est-à-dire qu'on ne saura plus rien faire parce qu'on aura délégué toutes nos activités, toutes nos capacités, toutes nos facultés, eh bien, à des systèmes algorithmiques, encore une fois, hein, qui ne sont pas du tout des intelligences artificielles, mais qui sont des automates computationnels et qui ne peuvent pas prendre de décision, si vous voulez. Hein. Ils font des calculs, ces automates, hein, mais ils ne peuvent pas inventer, ils ne peuvent pas décider, ils ne peuvent pas penser. Et donc, nous, le risque, si vous voulez, c'est de cesser de décider, de cesser d'inventer, de cesser de penser en nous reposant sur ces simulations, si vous voulez. Ça, je pense que c'est un véritable risque par rapport à ChatGPT en particulier, ou au modèle de langage, disons. Je pense qu'il y a aussi un très gros risque de la perte de la faculté d'écrire, de parler, de s'exprimer, qui est la faculté de penser, en réalité. Hein. Si vous ne savez plus parler, si vous ne savez plus écrire, eh bien, ça va devenir très difficile de penser. Et donc, ces machines auxquelles nous déléguons nos capacités d'écrire et nos capacités de parler, eh bien, je pense qu'il faut faire très attention avec elles, parce que nous sommes quand même fondamentalement des êtres parlants, des êtres pensants, et ce serait un petit peu dommage de devenir des machines, hein, précisément.
Oui, je vois. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Pour finir, une dernière question. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un autre essai ou un autre projet philosophique ?
Alors, oui, c'est un peu dur à expliquer parce qu'il y a toujours beaucoup de projets en même temps pour moi. Donc, c'est un petit peu confus. Mais en particulier, pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment, j'aimerais beaucoup écrire quelque chose d'un peu précis, si vous voulez, sur les enjeux justement de ces modèles de langage et des intelligences artificielles génératives, à la fois du point de vue de nos capacités psychiques, hein, d'invention, de création, mais aussi de pensée, tout simplement, et puis du point de vue des enjeux politiques aussi, notamment en termes de désinformation, en termes de confiance, société, bon, voilà, donc c'est très vague hein, pour l'instant, mais j'aimerais essayer de problématiser un peu cette notion d'automate computationnel et de comprendre ces enjeux.
Oui, je vois, ça m'a l'air vraiment très intéressant en tout cas.
Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Merci Anna Lombert, c'était Louis-Gabriel Baudrat sur BAC FM, fréquence 106.1. Au revoir.
Au revoir.